Vatican II, le Concile en question, avec Monseigneur Marc Hayet.
Il faut donc avancer et se dire, alors, si l'unanimité a été obtenue, ou la quasi-unanimité, au moment des votes de documents qui ont été, encore une fois, amendés, patiemment discutés pendant 4 ans. Quel fut le moteur de cette unanimité? Comment a-t-on pu passer raisonnablement de telles tensions et oppositions à une si ferme unanimité, sinon grâce à la victoire de la foi? Qui était victorieux au Concile? C'était la question qu'on se posait en disant, on ne peut pas dire qu'il y a la victoire d'un parti contre l'autre. Mais c'est le sens de la foi qui a guidé, finalement, ces discussions et qui a permis au Père d'aboutir, non pas à un compromis, mais à une unanimité. On ne saurait en effet en aucun cas réduire l'Assemblée conciliaire à une assemblée humaine parlementaire, ni se contenter du regard factuel de l'historien. Il convient plutôt de prendre de la hauteur et d'approcher l'événement de l'intérieur. Moi, je me rappellerai toujours de cette leçon du pape Benoît XVI qui venait à peine de remettre sa charge, c'était le 11 février 2013, et quelques jours après, le 14 février 2013, il rassemble, comme tous les jeudis après les cendres, chaque année, le clergé de Rome. C'était dans la salle Paul VI au Vatican. Et il leur dit, étant donné les circonstances et ma fatigue et mon âge avancé, je n'ai pas eu le temps de vous préparer une conférence construite, mais je vais vous donner un peu une idée de la manière dont je vois, à bien des années de distance, le Concile Vatican II. On se rappelle que Joseph Ratzinger a participé au Concile comme prêtre et comme théologien, d'abord du cardinal Frings, qui faisait partie, donc archevêque de Munich, qui faisait partie de la présidence du Concile, et finalement expert théologien au Concile. Donc il a participé de près, et comme théologien, donc il a une réflexion, évidemment, sur le Concile. Et il leur fait une causerie de 50 minutes sans papier, parfaitement construite, parce qu'on savait combien son intelligence était structurée, sur le Concile Vatican II. C'est un texte qu'il faut relire, car c'est une magnifique synthèse du Concile. Et il fait la différence entre ce qu'on a appelé, je le dirai plus tard pourquoi, le Concile des médias et le Concile des pères du Concile. Le Concile des médias, qui a regardé le Concile de manière très politique, comme une assemblée parlementaire, avec des partis qui pouvaient s'opposer, qui étaient en tension, donc le Concile politique, et, dit-il au contraire, le Concile de la foi. Le Concile de la foi, évidemment, ça n'est pas forcément visible du point de vue de l'historien, ni du point de vue du sociologue, qui s'intéresse aux faits extérieurs. Mais c'est la foi, le sensus fidei, qui certainement a présidé aux assemblées conciliaires. Il faut se rappeler qu'avant chaque congrégation générale, on intronisait au sens le plus littéral du terme le livre des évangiles. Ça veut dire qu'on plaçait au pied de l'autel de la confession, sur un trône, le livre des évangiles ouvert, comme pour bien dire que celui qui a présidé l'Assemblée, de l'intention même des pères conciliaires, qui adhéraient évidemment à ce rite très important et qui en dit long, c'était le Christ Jésus lui-même. Voyez, la récitation communautaire de l'Office divin pendant toutes les sessions du Concile, la célébration de la messe qui ont rythmé les journées, atteste en effet que c'est le sens de la foi qui l'a emporté au Concile. Au-delà des divergences d'opinion ou des intentions plus ou moins louables d'ailleurs et plus ou moins droites qui ont pu guider tel ou tel groupe de pression, car comme dans toute assemblée humaine, il y a des groupes de pression et il y a dû avoir aussi au sein du Concile des groupes de pression. En ce sens, la définition du sensus fidei, que l'on traduit par le sens surnaturel de la foi, au numéro 12 de la Constitution Lumen Gentium est très éclairante et peut être considérée à bon droit comme une clé d'interprétation des textes promulgués par le Concile Vatican II. Je répète les éléments essentiels de cette définition. Le sens surnaturel de la foi concerne, dit le texte, la collectivité entière de l'Église, des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs. Il est suscité par l'Esprit Saint, il est conduit par le magistère sacré, il donne à l'ensemble des fidèles d'approuver ou d'apporter plus exactement aux vérités relatives à la foi et aux mœurs un consentement universel, ce sont les termes mêmes du Concile. Par lui, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise, c'est la tradition, la pénètre pour l'interpréter comme il faut, c'est l'herméneutique ou l'interprétation de la théologie, et la mettre en pratique concrètement dans sa vie, c'est l'expérience chrétienne, en particulier l'expérience des saints. Vous voyez, cette unanimité des pères, même au prix de nombreuses discussions ou allers-retours entre l'assemblée plénière et les commissions qui présentaient les schémas, avec l'effervescence qui a caractérisé les travaux des groupes linguistiques et auxquels les experts théologiens ont largement participé, chacun y apportant, les théologiens n'étaient pas membres du magistère, mais apportaient aussi leurs opinions, sous la conduite du magistère de l'Église, peuvent être considérés vraiment comme le fruit du sens surnaturel de la foi suscité par l'Esprit Saint. L'unanimité qui a caractérisé l'approbation des textes, souvent née dans la douleur des travaux conciliaires, est en effet le meilleur témoin de ce sens surnaturel de la foi, sensus fidei, qui a guidé l'Assemblée des Pères. Et la promulgation du pape, qui est toujours nécessaire, après le vote des Pères, en apportait la confirmation solennelle. On peut donc affirmer qu'avant d'être un nouveau langage, une nouvelle manière pastorale, avec des conséquences très concrètes, en particulier dans le domaine de la liturgie, qui sont peut-être apparues comme les plus significatives, ce fut précisément cette attitude de foi qui donne un consentement universel, à la fois synchronique, c'est-à-dire ici et maintenant, dans l'ensemble du collège épiscopal de cette époque-là, et diachronique, dont la tradition est le témoin à travers les âges, à travers les siècles, à toutes les vérités relatives à la foi et aux mœurs, et que le Concile a voulu présenter de manière plus efficace. C'est cela, cette adéquation à la foi de l'Église par le sens surnaturel de la foi qui est à l'origine de l'unanimité des pères au Concile.